vous suit.
Voici les titres du journal.
Le septembre musical Montreux-Vevey s'est achevé hier. La 76e édition consacrée à l'Autriche a séduit près de 15 000 spectateurs. Nous ferons le bilan avec le directeur de l'événement, Micha Damef. Un cuisinier chablaisien sera le seul roman à participer à un prestigieux concours ce week-end en Belgique. Guillaume Abbé a suivi hier sa matinée de préparation. En basket, la saison de SB League commence ce week-end pour Montreux-Vevey. Après un dernier exercice décevant, les Valaisans auront à cœur de faire mieux. Quant aux Vaudois néo-promus, ils espèrent accrocher les play-offs.
Et pour la météo, des éclaircies pour cet après-midi avant le retour d'un temps très nuageux demain et du soleil dimanche. Météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Julie Gay. Bonjour Julie.
Bonjour Axel, bonjour à tous. La richesse du patrimoine culturel autrichien a été mise à l'honneur lors de la 76e édition du septembre musical Montreux-Vevey. Le festival qui s'est terminé hier a enregistré 15 000 spectateurs. On fait le bilan avec le directeur du festival, Micha Damef. Bonjour.
Bonjour Julie.
15 000 spectateurs, donc 25% de jeunes, 5 concerts affichés complets. On peut le dire, c'est pari réussi pour cette édition post-Covid, Micha Damef.
Absolument. Et ce qui était le plus réjouissant, c'est en fait que la population de la Riviera a absolument fait avec, ils ont participé, et on a fini en apothéose hier soir, sous les valses de Strauss.
Une fin en apothéose, hein, et l'engouement était là, avec notamment la participation de jeunes. Ce serait votre plus belle récompense à l'issue de ce festival?
Absolument. Parce que notre logo, c'est en fait ouvrir une fenêtre sur le monde, et c'est surtout ouvrir une fenêtre sur la jeunesse, et avec la jeunesse, et voilà, on est très contents comme ça s'est passé. 25% pour des concerts classiques, c'est en fait beaucoup.
Et aujourd'hui, les orchestres, chefs et solistes sont repartis. Hein. Le violon personnel de Mozart qui avait été présenté et joué devant le public est rangé lui aussi. Maintenant pour vous, c'est l'heure de souffler ou de déjà penser à la suite?
Absolument, déjà penser à la suite. Après un tel succès, il faut toujours préparer la suite, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un succès moindre que cette année. Donc on a déjà préparé le pays hôte d'honneur pour l'année prochaine.
C'est déjà le stress maintenant. J'imagine qu'il y a plein de choses à penser. On a déjà des idées de thématiques. Comment ça se passe pour le post-festival?
Je peux vous le dévoiler déjà en primeur pour votre chaîne qui est exceptionnelle. Je dois le dire à ce moment-là aussi. Ça sera la France, ça sera la grande culture de la France qui sera justement notre point fort l'année prochaine.
Merci pour ce primer, Micha Damef, et pour vos gentils mots. Je vous rappelle, hein, vous êtes le directeur du Septembre Festival Musique Montreux-Vevey qui s'est achevé hier. Une très belle journée à vous.
Merci, à vous aussi. Au revoir Julie.
Au revoir. Le cuisinier Damien Delacoste participe ce week-end à un prestigieux concours à Bruxelles. Seul représentant roman en demi-finale du San Pellegrino Young Chef Academy, le second du restaurant Le Maguet aux Évouettes aura 5 heures pour sortir une assiette sur le thème de la forêt. Guillaume Abbé l'a suivi hier lors de sa matinée de chauffe. Il l'a rejoint au cerf d'Ivorne à l'heure de la cueillette. Écoutez son reportage.
Je m'appelle Damien Delacoste, je suis le second de Benjamin Le Maguet. J'ai commencé mon apprentissage dans un restaurant traditionnel. Suite de ça, je suis parti dans les palaces suisses. Puis après, je suis parti à Paris me former. J'ai fait des restaurants étoilés et quelques palaces parisiens. Je suis également parti un peu à Dubaï. Je suis très attaché à mes racines. Donc au bout d'un moment, il fallait que je rentre. Mon arrivée chez Benjamin Le Maguet, ça s'est fait tout naturellement. Au fond, on a des valeurs communes. Donc vraiment, le travail de 100% local, le matin, d'aller cueillir nos inflorescences, tout ça. Ça, c'est des choses que je n'avais jamais vues, même en palace, même dans des grandes maisons. C'était impensable. Moi, le premier jour où j'ai commencé pour lui, j'ai dit, je me sens cuisinier.
Toi, tu prends de la grande feuille pour ton sponge cake, ouais, c'est ça, hein?
C'est ça, exactement.
Troisième au Bocuse d'Or Suisse en 2021, Benjamin Le Maguet l'épaulera à Bruxelles. Le chef Evouetou sera là pour motiver son second.
Alors ce qui est intéressant, c'est que sortant du Bocuse d'Or, je suis encore tout frais, à fond dedans. Mon rôle sur place, ça va être de pouvoir le guider. D'où justement l'objectif aujourd'hui de voir comment est-ce qu'il va s'en sortir seul sans moi. Lundi, j'aurai un aperçu des choses sur lesquelles il faudra que je sois plus présent pour le guider lors de la fabrication du plat.
Il aura 5 heures pour le faire. On quitte les serres d'Ivoire en direction la cuisine. Damien Delacoste propose un hommage à son grand-père amoureux de la nature décédé à ses 8 ans. Il nous emmène en forêt.
Dedans, je vais reproduire la mousse de l'herbe par un sponge cake, quelque chose de très herbacé. On va sentir des notes de genièvre. Je vais reproduire une branche. À l'intérieur, il y aura un tartare de chevreuil. Il y aura bien sûr l'élément phare, ce sera le champignon. C'est un plat qui est très technique. La grande technicité, ce serait de réussir à tout sortir, de ne pas se faire piéger par le temps.
Et voilà, levez les mains. Fin de l'épreuve.
Et après 5 heures en conditions réelles, que pense le cuisinier de son assiette ?
Je suis passablement content du résultat, quelques petits réglages, mais dans l'ensemble, non, très content.
Vous partez confiant à Bruxelles ?
Ah, on n'est jamais confiant, il ne faut jamais partir confiant parce que c'est le meilleur moyen de tomber. Je vais rester focus sur le truc. Et puis dans tous les cas, je donnerai tout. Ouais.
Et bon appétit. Si Damien Delacoste remporte cette étape parmi 10 autres concurrents, il sera attendu en juin 2023 à Milan pour la grande finale.
Un nouveau lieu de coworking a vu le jour au Diableret cet été.
Comme à Zermatt ou à Verbier, le Chablais dispose désormais d'un espace du genre en montagne. Les fondateurs d'Oulala, c'est son nom, souhaitaient combler un manque dans la station, motivé par le recours au télétravail durant la pandémie. En plus des services standards, les gérants proposent des tarifs avantageux aux associations locales, ainsi que la domiciliation et des lieux d'archivage. Pour cet hiver, ils comptent sur la venue de nombreux touristes pour dynamiser l'endroit.
Le musée Yéniche Vevey souffle ses 125 bougies.
Inauguré en 1897, le musée, qui tient son nom de la donatrice qui a permis sa création, veut célébrer son anniversaire. Pour l'occasion, une riche programmation a été imaginée pour le public le 8 octobre prochain. Les visiteurs pourront venir dessiner sur les murs, se faire photographier en costume d'époque ou encore écouter une sélection d'œuvres musicales datant de 1897. En parallèle, le musée Yéniche a aussi édité 2 publications pour le jeune public. Nathalie Schex, directrice du musée Yéniche à Vevey.
Pour nous, c'est vraiment très important d'accueillir le public de demain et ça veut dire qu'il faut leur donner dès aujourd'hui du plaisir quand ils viennent en nos murs. Donc, à l'occasion du 125e anniversaire, on a créé effectivement 2 nouvelles publications. Le Petit Yéniche illustré avec 100 œuvres du musée illustrées pour le jeune public et puis un polar qui se passe dans les murs du musée avec la directrice, la fille de la régisseuse qui est une spécialiste de l'informatique et qui va résoudre tous les problèmes qui se posent dans nos murs.
Pour attirer la jeune génération dans leurs murs, le musée ne s'arrête pas là. Des interventions dans les classes pour parler d'art ont été mises sur pied. On retrouve Nathalie Schex.
Depuis l'année dernière, on a mené une action avec les scolaires. Donc, on fait une action dans les classes de 6P avec les élèves d'environ 10 ans. On va les voir en classe, on leur explique, on leur parle du musée Yéniche, on leur donne envie. Et ensuite, on les reçoit au sein du musée même pour une visite guidée. Et quand ils repartent, ils ont un petit pass qui s'appelle « J'emmène ma famille au musée ». Et en fait, les enfants deviennent les moteurs avec leurs parents de leur visite au musée. C'est grâce à eux qu'ils obtiennent la gratuité et qu'ils doivent eux même emmener leur famille plutôt que ce soit l'inverse.
Pour rappel, les festivités ouvertes au public se dérouleront le 8 octobre prochain au musée Yéniche. Différentes activités et rencontres musicales sont proposées de 14h30 à minuit.
Demain, le conseil municipal de Saint-Gingolph-France inaugurera le projet phare de son mandat.
C'en est terminé en effet de l'ancienne salle des fêtes de la commune qui approchait de son 40e anniversaire et qui était devenue obsolète. Ainsi, seuls 3 murs sont restés. Le bâtiment a été métamorphosé pour proposer une mairie plus petite, une salle des fêtes, la salle de l'exécutif local qui sera accessible aux associations, ainsi qu'un carnet, sans oublier un toit-terrasse. Bref, un bâtiment beau et fonctionnel. Objectif, attirer les gens et mettre de plus de convivialité encore dans la vie du village. Ce dont convient l'adjoint au maire chargé du projet, Joël Grandcolo.
Oui, et puis pour pas se cacher les choses, c'est que voilà, on investit une certaine somme d'argent dans la rénovation de ce bâtiment, la construction de la nouvelle mairie. Donc il faut que ce bâtiment il soit utilisé pour être rentable pour les caisses communales. Plus on l'utilisera, que ce soit les associations de notre village, que ce soit nous, autorités, en l'utilisant pour des séances ou alors qu'on puisse la mettre à la location. Il faut que cette salle, maintenant, elle vive. Elle avait tendance un petit peu à être délaissée les dernières années, notamment à cause de son état. Et maintenant, elle retrouve une seconde jeunesse et on espère qu'elle sera utilisée au maximum.
Vous avez consulté les associations, Joël Grandcolo, les associations du village, pour produire la rénovation et la requalification la plus parfaite possible. Ça s'est passé comment ?
Dès les prémices du projet, on a réuni les associations. On leur a fait visiter en fait l'ancienne salle. Et on leur a demandé de nous mettre en lumière toutes les choses qui n'allaient pas dans l'ancienne salle, toutes les pistes d'amélioration qu'elles pouvaient trouver intéressantes. Et on peut se satisfaire, je pense, d'avoir pu répondre à plus de 95% des attentes des associations avec la réalisation de cette nouvelle salle.
Joël Grandcolo avec Yves Terrani. Précisons encore que le projet de restauration de la mairie et salle de fête de Saint-Gingolph-France a coûté 2 millions d'euros. Quant à l'inauguration de demain, elle commencera sur place à 16h, avec au programme des portes ouvertes et des visites commentées, diverses animations, une partie officielle et bien évidemment un apéritif. Les lois urgentes permettant des prêts aux entreprises électriques en difficulté et pour développer l'électricité photovoltaïque vont entrer en vigueur demain. Le Parlement a donné son feu vert final ce matin et a aussi ratifié la loi pour protéger le climat et pour la sécurité de l'approvisionnement aux grandes dames de l'UDC qui n'en veut pas. Face au risque de pénurie électrique, le Parlement a accéléré la cadence du virage vers les énergies renouvelables, ce qui ravit la présidente de la Commission de l'Environnement et de l'Énergie du Conseil des États, la socialiste jurassienne Elisabeth Baume-Schneider.
C'est spectaculaire d'avoir une vraie offensive, enfin, en faveur des énergies renouvelables. Et puis c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, cette offensive pour le photovoltaïque, que ce soit de montagne, si j'ose dire de manière simplifiée, ou l'obligation faite pour les nouvelles constructions. Qui s'est quand même notoirement, certains diront assouplie, d'autres affaiblie, parce que 300 mètres carrés assises de bâtiments, c'est plus du tout la villa ou la maison de chacune et de chacun.
C'est une bonne session ?
Je crois que c'est une excellente session. On a beaucoup travaillé, on a eu 4 ou 5 séances supplémentaires. C'est vrai que parfois on a travaillé quand même avec un certain rythme qui ne permettait peut-être pas toujours d'avoir le recul, se dire est-ce que c'est vraiment la bonne décision, en totale cohérence, mais je dirais qu'il n'y a pas eu de précipitation, il y a plutôt eu tout à coup une prise de conscience qu'on ne pouvait pas se permettre à cette session-ci de ne pas arriver avec des lois sur lesquelles on pouvait non seulement discuter, mais qu'on devait décider. Aujourd'hui, vendredi matin, on vote sur 3 projets de loi fondamentaux et complémentaires, donc je trouve que c'est une excellente session.
Des propos recueillis par notre correspondant à Berne, Serge Jubin. L'une de ces lois, celle sur l'approvisionnement énergétique, doit encore être débattue au Conseil national, certainement en décembre.
Le président ukrainien s'est emporté aujourd'hui contre la Russie.
Volodymyr Zelensky a traité les dirigeants de terroristes et de racailles sanguinaires après une frappe sur une colonne de civils à Zaporijjia qui a fait au moins 25 morts et 50 blessés. Les autorités pro-russes accusent en retour Kiev pour cette frappe meurtrière. En basket, les choses sérieuses commencent ce week-end pour Monté et Vevey. Les joueurs montaisans vont retrouver la SB League dès demain à la salle du Reposieux. Et ils entreront tout de suite dans le vif du sujet puisqu'ils seront opposés au quadruple champion du Suisse en titre Fribourg Olympique. Un véritable défi face à l'un des cadors du championnat. Mais la confiance semble être au beau fixe dans les rangs chablaisiens. Après une préparation estivale positive, marquée par des victoires en amicales, les jaunes et verts doivent maintenant confirmer en compétition. À 2 jours de la reprise, l'entraîneur du BBC Monté-Chablais, Patrick Pembele, a fait le point sur son effectif.
Bien, on a une pré-saison, je dirais le plus important, on n'a pas eu de blessure. On a eu des résultats positifs, du coup il y a de l'enthousiasme chez les jeunes joueurs. Les joueurs un peu expérimentés, ils sont plus relax, ils savent que c'est la pré-saison, donc plutôt bien.
Comment on voit cette saison au niveau des ambitions, Patrick Pembele, du côté du BBC Monté-Chablais? Est-ce qu'il y a des ambitions qui sont affichées? Est-ce que vous le dites déjà maintenant?
Oui, bien sûr, je pense que ambition haute, c'est viser le top 6. Minimum, c'est les playoffs, c'est obligatoire, sinon c'est un échec total. Et top 6, on peut viser ces places-là.
De son côté, le Vevey Riviera Basket fait son grand retour dans l'élite. Relégué sur tapis vert il y a 2 ans, le club vaudois a dû se reconstruire. Pour ce faire, il a notamment misé sur Jonathan Duba. Natif de Vevey, l'international suisse va continuer à occuper le rôle qui lui a été confié, celui de leader et de grand frère. Les explications de Jonathan Duba.
C'était clairement le but que coach Bafcevic avait quand il m'a fait venir à Vevey. Évidemment, j'étais un joueur local, donc ça aide aussi pour créer une identité dans l'équipe, mais aussi de pouvoir transmettre mon expérience à tous les joueurs qui veulent se développer. Je vois aux entraînements qu'il y a des joueurs qui ont faim, qui ont envie d'être là et qui ont une mentalité très pro. Maintenant, à voir cette saison, qui va pouvoir se développer? On a plusieurs joueurs qui sont là. Évidemment, tous ne vont pas y arriver, mais comme on a plus qu'un ou deux joueurs, on aura un peu plus de chances d'avoir des joueurs qui seront au top à la fin de l'année.
Des propos recueillis par Ludovic Turin. Pour le Vevey Riviera Basket, le premier match de la saison est prévu dimanche à 16h sur le terrain de Suisse centrale à Lucerne.
L'actu en continu sur radiochablais.ca.